DW. Magazine Environnement.
Dans ce magazine, la COP26 sur le climat à Glasgow est racontée par l'un des négociateurs. Également au menu, nous irons à la découverte d'une éco-activiste béninoise, Sandra Idosu.
Nous récupérons des choses jetées dans la nature pour les transformer, pour leur donner une deuxième vie.
Mesdames et messieurs, bonjour. Kosivit Yassou au micro. On commence par le Bénin où la célèbre activiste Sandra Idosu s'investit dans la lutte pour un environnement propre et sain dans son pays. Elle travaille sans relâche pour sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux. Le reportage de Saja Gankin, présenté par Constance Fischer.
Pour moi, les enfants sont les vrais vecteurs du changement. Il vaut mieux acheter quelque chose qui est fabriqué ici, ça réduit notre impact au niveau du CO2 au Bénin.
Sandra Idosu défend l'environnement avec passion et elle se rend dans les écoles pour faire passer le message. Aujourd'hui, elle se trouve dans le village de Paupovi. Ici, la nourriture est souvent vendue dans des sacs en plastique. Les enfants ont grandi avec cela. Mais Idosu leur explique qu'il faut du pétrole brut pour fabriquer les sacs et que c'est mauvais pour leur santé et pour l'environnement. La campagne Sachet est loué ou Maudit Sachet n'a de cesse de faire passer ce message.
On doit éviter d'utiliser les sachets. Ça cause trop de maladies.
Ce sont ces enfants qui vont porter le message pour nous et qui vont amener justement la communauté, tout leur environnement à adopter des comportements responsables.
Ici, Idosu aide un groupe de bénévoles à s'échauffer avant de commencer une éco-course à Cotonou. Le but est de ramasser le plus de déchets plastiques possible le long du parcours. Jusqu'à présent, des centaines de bénévoles ont participé à une vingtaine d'événements de ce type au Bénin. Et ils parlent de cette campagne très bien reçue à tous ceux qu'ils rencontrent.
Je pense que c'est une belle initiative. C'est notre façon à nous de contribuer à la propreté de la ville et de montrer que Cotonou nous tient à cœur.
Il y a 3 ans, Idosu a créé l'association Engagement Action Sociale. En plus des opérations de collecte, ils ont réussi à présenter au Parlement une pétition contre l'utilisation des sachets plastiques.
Une fois que la loi était votée, c'est maintenant qu'il fallait commencer la campagne pour sensibiliser les populations, pour leur expliquer pourquoi est-ce que le sachet était dangereux pour leur santé et pour l'environnement, et surtout pour être une force de pression derrière le gouvernement pour la mise en application de cette loi.
L'activiste sait s'y prendre pour sensibiliser les gens à un problème. C'est une femme d'affaires accomplie, experte en marketing. Elle-même possède une boutique où elle vend des articles fabriqués par des artistes recycleurs et des artisans locaux.
Ici, nous faisons la promotion avec tout ce qui est fait avec du raffia, du pain tissé, du bois d'ici, du cori. Au fait, l'artisanat peut être aussi un outil au niveau de la protection de l'environnement et de l'écologie. Nous récupérons des choses jetées dans la nature pour les transformer, pour leur donner une deuxième vie. Et pour moi, en faisant Couleur d'Afrique, c'est aussi une continuité et montrer que le combat pour un environnement propre, pour l'écologique, c'est dans tout que ça peut se vivre.
Sandra Idosu poursuit inlassablement sa mission. Presque tous ses efforts visent à faire du Bénin un endroit plus propre et plus sain.
Un reportage de Sacha Gankin présenté par Constance Fischer.
DW.
La COP26 sur le climat s'est tenue à Glasgow, en Écosse, il y a quelques jours. Les militants pour la cause climatique espéraient que cette conférence déboucherait sur des mesures concrètes. Mais ce n'est pas tout à fait le cas, ce qui veut dire que le gros lot du travail débute maintenant sur le plan politique. Il reste à savoir ce qui sera réellement appliqué ou non. Aujourd'hui, dans ce magazine, l'un des délégués, Kosivi Adesu, le coordonnateur régional du Réseau mondial pour la réduction des catastrophes naturelles, partage avec nous ses expériences de négociateur.
Lorsqu'on parle de négociation, on parle d'un exercice très, très, très demandant en termes d'énergie, de temps, mais aussi qui demande beaucoup de patience, beaucoup de méthode, beaucoup de compromis pour qu'on arrive à un consensus. Parce que figurez-vous, toutes les parties qui viennent à la COP viennent avec leurs priorités et les priorités ne convergent pas toujours. mais il va falloir trouver un point de centralisation, un point de consensus. Et c'était la partie la plus intéressante de l'exercice pour moi, qui est participé cette fois-ci, pas que en tant qu'organisation de la société civile, mais en tant que négociateur.
Et par rapport aux pays africains, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce qu'il y a eu aussi des divergences dans les points de vue, dans les priorités?
Il y avait quand même dans les salles de négociation un équilibre que les Africains ont su imposer. Il y avait aussi une convergence de points de vue, même si certaines priorités semblaient diverger de façon vraiment négligeable. Il y avait quand même de façon générale une convergence de points de vue. Et lorsque je parle de divergence, c'est peut-être quand on prend par exemple les pays de l'Afrique centrale qui négociaient véritablement autour donc des questions de carbone, du marché de carbone, parce que ayant aujourd'hui, selon les dernières études, le premier poumon mondial, même s'ils n'ont pas la première plus vaste, plus grande forêt du monde. Donc voilà un peu quelques points divergents, mais globalement, les Africains ont parlé d'une voix, et même au-delà des Africains, je parle des pays du G77 plus la Chine, qui sont venus comme un seul homme et qui ont porté des messages forts. Du moins, je l'ai constaté lorsque nous étions dans les réunions sur les pertes et préjudices.
Et comme les priorités divergent d'une région à une autre en Afrique, n'est-ce pas un frein à la satisfaction des doléances africaines?
Au niveau international, ce n'est pas un frein parce que les Africains savent se concerter entre eux avant d'aller présenter leurs priorités. Donc, la question que vous avez évoquée, celle relative aux pays du Sahel, est une question transversale. La question est essentiellement portée sur la promesse faite par les pays développés de mettre 100 milliards de dollars par an à la disposition des pays sous-développés. Et ces pays-là, il ne s'agit pas que de l'Afrique, il s'agit des pays sous-développés qui intègrent également les pays de l'Asie et certains de l'Europe de l'Est. Donc, comme vous l'avez si bien dit, les pays sahéliens pensent que si la part des 100 milliards qui devaient leur revenir pouvait arriver plus tôt, il ferait mieux en matière de lutte contre la désertification, mais également en matière de lutte contre tous les problèmes qui sont liés essentiellement au changement climatique.
Donc, par exemple, la migration.
Par exemple, l'insécurité, parce qu'on sait aujourd'hui que la plupart des problèmes d'insécurité est lié au problème donc, d'accès aux ressources naturelles qui s'amenuisent. Donc, certains jeunes pastoralistes qui n'ont plus de fourrage pour leurs bêtes sont obligés de s'allier à des groupes qui leur promettent un mieux-être. Donc ça aussi, c'est à voir avec les changements climatiques. Et les pays sahéliens ont donc raison. Rappelez-vous encore de l'initiative de la muraille verte qui s'étend sur près de 8000 kilomètres et qui devait permettre à restaurer les sols dans le Sahel et à promouvoir une agriculture locale durable. Donc, il y a tous ces éléments-là que les fonds promis pouvaient aider à régler. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles les pays sahéliens portent leur intérêt sur cet aspect-là.
Entre les exigences de la RDC en matière de financement en vue de protéger ses forêts et celles d'un pays comme le Niger qui veut restaurer ses terres, comment faire pour concilier ces deux priorités?
Il faut rappeler que la lutte des pays de l'Afrique centrale et avec point central, la RDC, porte sur des financements d'atténuation, pas d'adaptation. Donc, quand on parle de marché de carbone, on veut créer un mécanisme au cours duquel les forêts disponibles peuvent encore piéger une quantité importante de CO2 émise par les entreprises du Nord. Donc, c'est purement un projet d'atténuation et pas d'adaptation. Par contre, les fonds, les 100 milliards de dollars dont nous parlons, sont des fonds d'adaptation. Donc, je confirme que les fonds d'adaptation sont des fonds transversaux pour toute l'Afrique, alors que les pays de l'Afrique centrale, dont la RDC, luttent pour des fonds d'atténuation qui sont des fonds qui se trouvent dans une autre boîte, je veux dire.
Et en matière de pertes et dommages, est-ce que les négociations ont pu évoluer?
D'abord, il faut rappeler que les changements climatiques n'auraient pas retenu toute l'attention s'ils n'avaient pas créé ou ils ne continuent pas de créer des dommages de façon pratique, s'ils n'avaient pas d'impact négatif sur la vie quotidienne des communautés. Et lorsqu'on parle de pertes et dommages, ce sont des impacts résiduels que ni l'atténuation ni l'adaptation ne sont à même de juguler. Donc, on va au-delà donc, des questions d'adaptation et d'atténuation. Voilà comment il faut d'abord comprendre ce que nous appelons par les pertes et dommages ou les pertes et préjudices. Maintenant, pendant très longtemps, depuis 2013, la communauté internationale, à travers le mécanisme de la COP, a mis ce qu'on appelle le mécanisme international de Varsovie, qui consiste essentiellement à gérer la question des pertes et dommages. Fort malheureusement, ce mécanisme n'a jamais eu une vie active et donc n'a pas pris en compte suffisamment les priorités et les impacts du changement climatique, surtout dans les pays en voie de développement, qui, il faut le rappeler, ne sont pas responsables à 80% du changement climatique.
Et à Glasgow, est-ce que les discussions à ce sujet ont un peu évolué?
Beaucoup évolué, parce que c'est la première fois dans l'histoire des COP que la question des pertes de dommages est revenue comme une question essentielle. Aujourd'hui, on a fait des questions de pertes et dommages des questions qui doivent être discutées à toutes les COP. Ça, c'est un premier élément. Secondo, il faut rappeler qu'à la dernière COP de Madrid, on est venu avec ce qu'on appelait le Santiago Network for Loss and Damage, c'est-à-dire le réseau de Santiago sur les pertes et dommages. Et ce réseau était entendu comme l'organe fonctionnel, l'organe opérationnel du mécanisme de Varsovie que j'annonçais et a été adopté depuis 2013. Donc, à cette COP, on a veillé à décrire la fonction parce qu'il fallait donner quand même un mandat fonctionnel au Santiago Network. Et cela a été un grand pas qu'on a pu réaliser. Parce que figurez-vous, le Bangladesh, par exemple, les îles Maldives, je parle de la ville de Cotonou au Bénin ici, plein, on a parlé tantôt du Sahel, plein de pays sont frappés de plein fouet par les impacts des changements climatiques. Et certains États sont menacés de disparition, ou certaines îles sont menacées de disparition. Et ces questions-là, ce sont des questions d'urgence qu'il faut prendre en compte. Et nous croyons qu'en organisant le secteur des pertes et dommages, on peut vraiment porter une attention particulière sur ces questions. Donc, ça a été le travail lors de cette COP-là, et nous avons eu des avancées significatives.
Kwasi Adesou, le coordonnateur régional du Réseau mondial pour la réduction des catastrophes naturelles. Et c'est sur cet entretien que prend fin le nouveau numéro de notre magazine. Merci de nous avoir suivis, Kwasi Adesou au micro, et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.